Suivez Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, premier service de transfert d'argent et de paiement mobile. Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Appelez-nous, exprimez-vous, où que vous soyez en France, à l'étranger, un seul numéro de téléphone pour nous contacter. Vous composez le 33 9 693 693 70 et vous nous rejoignez pour commenter l'actualité de votre choix. C'est la Libre Antenne. 20 minutes donc pour revenir sur les sujets qui vous ont marqué, les sujets qui ont fait la une de la presse internationale. Mais vous pouvez aussi nous interpeller sur des sujets dont on ne parle pas suffisamment selon vous. C'est aussi le principe et l'objectif de cette Libre Antenne. En tout cas, ce matin, vous êtes encore très nombreux à souhaiter commenter la lutte contre Boko Haram, la mobilisation régionale pour traquer ces islamistes qui sévissent dans le nord-est du Nigeria, mais aussi dans les pays limitrophes. Abdul Karim, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous nous appelez de Niamey, et comme plusieurs de vos compatriotes ce matin au standard RFI, vous êtes très en colère après le bombardement mardi de la localité d'Abadam. D'Abadam, ça se trouve vraiment à la frontière entre le Niger et le Nigeria. On parle d'une bavure de l'armée et de l'aviation nigériane, puisque 37 civils ont été tués, Abdul Karim.
Oui, merci bien, Juan. Donc, justement, nous avons appris avec la plus grande consternation qu'il y a eu des raids aériens. Et selon les premiers témoignages que nous avons reçus ça et là, il s'agirait donc d'avions de l'armée nigériane. Et à l'heure où je vous parle, nous ne pouvons pas confirmer s'il s'agit d'une bavure ou d'un acte délibéré. Mmh. Mais toujours est-il, il y a eu quand même beaucoup de... jusqu'à 37 personnes qui ont été tuées suite à ce raid aérien, et ce qui est vraiment très regrettable. Et aujourd'hui, le contexte dans lequel nous nous trouvons est d'insécurité, et ne nous permet vraiment pas d'infirmer ou de confirmer et qu'il s'agit vraiment d'une
bavure
délibérée. Seule une enquête digne de ce nom elle pourra déterminer avec exactitude les
choses. Et le gouvernement nigérien a annoncé l'ouverture d'une enquête dès mercredi. Restez en ligne, Abdul Karim. Joachim, également à Niamey, souhaite commenter cette actualité. Bonjour Joachim.
Oui, bonjour Juan.
Bienvenue, on vous écoute. Vous partagez le sentiment d'Abdul Karim ou pas?
Bon, moi, je ne suis pas convaincu que ce soit l'armée nigériane qui ait bombardé les civils nigériens, puisque l'armée nigériane lutte contre Boko Haram et que le Niger aussi lutte contre Boko Haram. Donc, je vois mal que l'armée nigériane bombarde les civils nigériens, surtout que ce sont les civils qui participent au renseignement, tout ça. Donc, je vois mal cela. Donc, je ne suis pas jusque-là convaincu.
Vous voyez mal cela. Et pourtant, Olivier Roger, ce matin, dans Afrique Matin, rappelait qu'au début du mois de février, alors que Boko Haram attaquait Maïdougouri, eh bien, les avions nigérians ont frappé les faubourgs de cette ville, tuant au passage 7 civils. Donc, l'armée nigériane n'en est pas à ses premiers dégâts collatéraux, tout de même.
Oui, bon, je pense qu'il peut y avoir débordement. Puisque l'armée nigériane n'a pas voulu tuer ces 7 civils. Bon, nous avons tous déploré cela. Mais l'armée nigériane visait les éléments de Boko Haram. Et voilà que, bon, il y a eu des balles perdues. Vraiment, nous avons déploré cela. Mais nous pensons que les renseignements doivent être précis pour que les bombardements aussi soient précis.
Mmh. Abdul Karim, un mot de conclusion avant de donner la parole à d'autres auditeurs?
Oui, vous savez, avec cette situation d'insécurité que Boko Haram a dit, et ce qu'il faut dire ici, c'est qu'il faut que même les différentes armées, qu'il y ait une vérification des différentes armées, en tout cas, qui sont dans la lutte contre Boko Haram. Et justement, et que la population aussi puisse contribuer de façon significative justement à dénoncer les différents suspects. qu'il pourrait y avoir dans ces différentes régions.
Effectivement, et notamment des suspects et aussi des Nigériens qui ont rejoint les rangs de Boko Haram. Merci à tous les deux, Abdoul Karim et Joachim, d'avoir contribué au débat et à la réflexion ce matin après donc cette tragédie de mardi dans la localité d'Abadam, à quelques kilomètres de la frontière entre le Niger et le Nigeria. On continue à parler de la lutte contre Boko Haram avec Clément, qui nous appelle de N'Djamena. Bonjour Clément.
Bonjour Juan.
N'Djamena, le Tchad qui est en première ligne dans la lutte contre ces islamistes, puisque depuis maintenant quasiment 3 semaines, l'armée tchadienne est déployée au Cameroun, et à plusieurs reprises elle a eu l'occasion de traverser la frontière et de traquer les djihadistes au Nigeria. Et vous, Clément, vous disiez au Standard être en colère contre l'attitude des autorités du Nigeria.
Exactement, j'ai un coup de gueule contre les autorités nigériennes en général, mais aussi les autorités politiques et militaires en même temps, parce que ce qui se passe, nous avons comme l'impression que c'est les autres pays qui sont plus impliqués dans la lutte contre Boko Haram que le Nigeria lui-même. Quand on regarde ce qui se dit avec tout ce que normalement nous connaissons comme des armées nigériennes, avec son budget, avec tout son armement, qu'il laisse comme ça ces rebelles continuer par faire des exactions contre les civils, ça me fait vraiment, vraiment mal. Parce que déjà le président nigérian avait refusé l'aide américaine qui était pourtant à sa disposition. Mais c'est aujourd'hui qu'il se réveille au moment où presque tout est déjà gâté, pour se dire, à ce moment, on accepte alors que la guerre a vraiment, vraiment fait beaucoup, beaucoup de civils.
Oui, et vous faites référence, j'imagine, à ce que disait le président Goodluck Jonathan dans un entretien qu'il a accordé samedi dernier au journal américain Wall Street Journal. Et lui, il s'étonne que les Américains ne soient pas présents sur le territoire du Nigeria. Il dit, mais est-ce que les États-Unis ne sont pas en train de combattre l'État islamique en Irak et en Syrie, dont s'inspire Boko Haram? Pourquoi ils ne viennent pas au Nigeria? J'attends des États-Unis qu'ils viennent nous aider. Vous comprenez malgré tout cet appel à l'aide du président nigérian?
Pour moi, ça arrive très tard. Bien sûr que les Américains vont réagir, mais on oublie que dans tous les cas, dès le début, fin 2014, les Américains avaient déjà proposé leur aide au Nigeria. Et c'est le Nigeria qui a expressément refusé cette aide en disant qu'eux sont capables de lutter beaucoup à tout seul. Mais il a fallu donc que les autres pays se rendent compte que ça devient un problème qui affecte les économies, affecte la population du bassin de la Tchad, pour que on commence à se dire que ce n'est plus un problème purement nigérian.
Bien sûr, c'est un problème régional, et on voit bien que la région prépare la riposte avec le déploiement le plus vite possible, mais ça peut prendre des semaines, de 8700 soldats du Niger, du Tchad, du Cameroun, du Bénin et enfin du Nigeria. Merci, on aura l'occasion, c'est promis, dans les prochains jours de suivre l'évolution sur le terrain et de commenter encore ensemble la lutte contre Boko Haram. Le chaos libyen, c'est incontestablement le sujet qui a suscité le plus de commentaires, plus d'un millier de commentaires postés sur la page Facebook de notre émission, avec en toile de fond cette question: faut-il une intervention militaire internationale pour mettre fin à ce chaos? En tout cas, l'idée a été soumise cette semaine par le président égyptien. On a vu que la France, les États-Unis, la Grande-Bretagne, eux, privilégiaient surtout le dialogue politique, la mise en place d'un gouvernement d'union nationale. Abderrahmane, bonjour.
Oui, bonjour, Juan Gomez, bonjour à tous et à toutes.
Vous êtes à Paris et vous dites qu'il faut une intervention militaire internationale.
Oui, effectivement, Juan Gomez, il faut une intervention militaire en Libye, et parce qu'aujourd'hui la situation en Libye est incontrôlable. Incontrôlable parce que tout le monde sait qu'aujourd'hui en Libye il y a deux gouvernements, deux parlements. En un mot, la Libye n'est plus un pays. Donc le plus important aujourd'hui, c'est que l'ONU doit prendre ses responsabilités, comme ils ont pris leurs responsabilités en autorisant les pays occidentaux à attaquer la Libye. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est que l'ONU, la Libye doit être mise sous tutelle de l'ONU. D'abord, en éradiquant le terrorisme, en éradiquant ces bandits qui sillonnent tout le Sahel, parce que tout le problème du Sahel vient de la Libye. Mmh. Comme l'a si bien dit d'autres présidents, c'est-à-dire le président Ibrahim Boubacar Keïta a bien dit que la Libye était sanctuaire terroriste, le président Mamadou Issoufou l'a répété aussi, et je pense qu'aujourd'hui, il faut que les Occidentaux écoutent et les présidents africains. Tant que la Libye n'est pas sécurisée, le Sahara ne sera jamais sécurisé.
C'est vrai que ça fait plusieurs mois que des chefs d'État africains, le président du Niger, de la Mauritanie, du Tchad, réclament aux Occidentaux qu'ils fassent le service après-vente après l'opération militaire menée en 2011. Mais malgré tout, est-ce que vous ne craignez pas que ça risque de compliquer davantage la situation, puisqu'on va défendre qui concrètement, Abderrahmane? Quand je dis on, nous Occidentaux, le pays aujourd'hui est contrôlé par des dizaines de groupes armés, des miliciens, certains sont islamistes, d'autres djihadistes. On ne sait plus qui contrôle véritablement ce pays, Abderrahmane. Donc les Occidentaux vont se ranger derrière qui?
Exactement, c'est ce qui justifie d'ailleurs la mise en tutelle de la Libye, parce que c'est ce qui a été fait au Kosovo, parce qu'on a vu là-bas que personne ne contrôle la situation. Donc aujourd'hui, la Libye et les Nations Unies doivent prendre les responsabilités de mettre la Libye sous contrôle, sous tutelle, et mettre une administration et après un dialogue politique.
D'accord, donc s'inspirer du modèle du Kosovo, voire même le modèle du Timor oriental, puisque là aussi l'ONU avait mis sous tutelle ce pays. Abderrahmane, ne raccrochez pas. J'avais promis cette semaine à l'antenne de rappeler Bernard, qui était en ligne de Benghazi en Libye. On l'a eu à peine une trentaine de secondes au téléphone. Bonjour Bernard.
Bonjour Monsieur Gomez.
Alors vous, vous dites surtout pas d'intervention militaire, vous qui êtes en Libye.
Oui, d'abord je voudrais dire que vous venez de poser l'excellente question. On va défendre qui? Ce que je voudrais dire, pour quatre raisons, pas d'intervention en Libye. D'abord, je pense qu'il faut laisser une chance à la diplomatie et aux Libyens de régler ça entre eux. Bien que les négociations à Genève, ils n'ont pas l'air d'avancer, hein, parce qu'ils ont choisi des politiciens qui n'ont pas d'influence réelle sur le terrain, parce que Farj Libya et le Parlement, qui est la milice qui détient la région de Tripoli, et le Parlement libyen, ils n'ont pas participé aux négociations, parce qu'entre autres, ils veulent que ça se passe en Libye. Mais le Parlement libyen, il a aussi des arguments. La Cour constitutionnelle a quand même statué en leur faveur. Alors, les gens de Tobrouk disent que ça a été fait sous la contrainte. C'est pas impossible, mais c'est pas avéré. La deuxième raison... Une intervention en Libye, ce serait une demande de la Libye. Mais une demande de qui?
Une demande de qui? Du gouvernement qui est reconnu par la communauté internationale, celui qui est donc installé à Tobrouk.
Ça va exacerber le sentiment national et donner, renforcer encore la partition, monsieur. Alors, il parlait du Kosovo, vous parliez du Timor, mais il y a une chose, et c'est la troisième raison, que personne n'a l'air de comprendre. Il y a 20 millions d'armes qui circulent en Libye. Une intervention au sol, ça va être un carnage. Dans aucun pays du monde, l'ONU a déjà intervenu avec une telle quantité d'armes. D'ailleurs, si vous suivez l'intervention finale de l'ONU, ils disent que c'est pas envisageable.
Oui, tout à fait. Pour l'instant, on n'est pas du tout dans l'optique d'une intervention militaire internationale, ni même de lever l'embargo sur les armes imposé à la Libye, comme le réclamait cette semaine à l'ONU le ministre libyen des Affaires étrangères. Bernard, ne raccrochez pas. Abderrahmane est toujours en ligne de Paris. Idrissa, sur ce même dossier, nous appelle d'Abidjan. Bonjour Idrissa.
Bonjour.
Quelle est votre position? Est-ce que vous pensez qu'il faut une intervention militaire ou au contraire privilégier le dialogue politique?
Moi, je pense qu'il faut une intervention militaire. Parce que dans la mesure où aujourd'hui en Libye, il n'y a pas d'interlocuteur crédible, bon, le débat entre les Libyens eux-mêmes ne se fait pas autour d'une table, mais avec des fusils. Le chaos est total. Et aussi, la situation de la Libye a alimenté l'appétit des trafiquants armés, ce qui fait qu'aujourd'hui, la Libye est similaire aujourd'hui à un no man's land. Tout cela rend impossible la tenue d'une... discussion autour d'une table.
Oui, parce qu'on voit mal avec qui discuter. Bernard, à Benghazi, vous disiez il faut une solution politique, mais on discute avec qui? Avec tout le monde? Avec tous ceux qui ont les armes? Avec notamment l'État islamique, en tout cas la branche libyenne de l'État islamique qui peu à peu gagne du terrain? Bernard?
Oui, je vous écoute.
Non, c'est nous qui, on n'avait pas ouvert le bon bouton. Hein. Excusez-nous, allez-y.
D'accord. La dernière chose que je voudrais dire, c'est le peuple libyen. Peu de gens le savent, la presse n'en parle pas souvent. Ce n'est que 20% de la population qui se combat. 80% de la population libyenne, elle subit, il y a des centaines de maisons détruites à Benghazi. Des gens qui ont travaillé toute leur vie. Le général Haftar, il fait de son mieux, certes, mais croyez-moi, lorsqu'il y a un sniper sur un immeuble de 5 étages, il tire au canon de 120. Et il y a beaucoup de gens qui ont perdu des enfants, des balles perdues. Les administrations sont fermées depuis 5 mois. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de pain, il n'y a pas de carburant, il n'y a pas de médecin. Le peuple libyen, il en a marre. Il n'en peut plus. Il a besoin de paix. Il faut que les Libyens arrivent à s'entendre entre eux. C'est la seule et unique solution.
Le général Haftar, c'est ce général qui dirige l'opération Dignité depuis mai dernier contre les islamistes. Et ce général est appuyé notamment par l'Égypte. Merci à tous les trois de nous avoir rejoints pour commenter donc ce dossier libyen. Là aussi, c'est promis, on suivra les discussions à l'ONU et on aura l'occasion au fur et à mesure des négociations de commenter ensemble l'actualité. Vous avez été quelques-uns à souhaiter réagir à la décision du président Kabila en République démocratique du Congo de renoncer au soutien des Nations Unies pour mener une offensive armée contre les rebelles Hutus rwandais des FDLR. Christian, bonjour.
Bonjour, Juan Gomez.
Alors Christian, vous êtes à Kisangani, donc en République démocratique du Congo, et vous dites, notre président a bien raison de se passer des casques bleus.
Absolument, Juan. Je crois que la situation des FDLR aujourd'hui est maîtrisable par nos forces armées. Mais la question qui est aujourd'hui mise en exergue par la MONUSCO, elle dérange parce que le chef de l'État, il est le garant des institutions de la République démocratique du Congo et il a l'impérium pour décider sur qui va gérer quelle institution dans notre pays.
Ouais.
La MONUSCO s'ingère dans la gestion de notre pays.
Alors, ce qu'il faut rappeler, excusez-moi Christian, je vous interromps, ce qu'il faut rappeler aux auditeurs, c'est qu'effectivement, l'ONU demande à l'État congolais de remplacer deux généraux qui sont à la tête de cette opération contre les rebelles, puisque l'ONU soupçonne ces deux généraux d'avoir commis de graves violations des droits de l'homme. Et ce que disent les autorités de Kinshasa, c'est voilà, pas question pour vous, Nations Unies, de vous ingérer dans nos affaires. D'ailleurs, les autorités dénoncent un vrai chantage. Pour vous, c'est un chantage de l'ONU ?
Oui, absolument. Il s'agit d'un chantage parce que nos forces armées ont fait leur preuve depuis quelques temps. Elles sont organisées, elles sont capables de prouver, elles sont capables de bouter dehors l'ennemi. Mais la problématique aujourd'hui, c'est l'implication de la MONUSCO dans la gestion de notre pays. Nous ne sommes pas, la République démocratique du Congo n'est pas un État sous tutelle de la MONUSCO ou de l'ONU. C'est un pays souverain et démocratique et les preuves démocratiques sont en train d'être démontrées par nos institutions. Il est donc aberrant et inconcevable que les Nations Unies, je ne sais au nom de quelles lois, puissent s'ingérer. Ouais. Si ils ont des griefs envers ces deux officiers
Christian,
de notre armée...
Christian, vous dénoncez, vous, l'ingérence de l'ONU. Alpha, congolais du Danemark, il nous appelle de Copenhague, lui a un point de vue diamétralement opposé au vôtre. Bonjour Alpha.
Ah oui, allô, bonjour, comment est-ce ?
Alors, on vous écoute sur ce dossier.
Le président Kabila joue la carte du Rwanda au détriment des Congolais. Parce que la nomination de ces deux généraux est un acte prémédité par M. Kabila. Il savait bien que ces généraux sont accusés pour la violation des droits de l'homme. Et il se nommait parce qu'il savait que l'ONU ne doit pas collaborer avec les militaires accusés pour la violation des droits de l'homme.
Mais quel est l'intérêt, excusez-moi, pour le président Kabila de nommer sciemment deux généraux accusés de crimes de violation de droits de l'homme?
Oui, parce qu'il veut que les problèmes des FDLR se pérennisent au Congo. Il a intérêt de garder les FDLR au Congo parce que son mentor Kagame ne veut pas les voir retourner chez eux. Alors, si les gens de la MONUSCO sont sur les champs de bataille, ils vont voir comment est-ce que lui, il veut vouloir les disperser au Congo plutôt que de les ramener chez eux.
Bon, donc pour vous, donc vous faites partie de ceux qui sont convaincus qu'il y a un complot derrière tout ça. C'est un point de vue qui a le droit d'être entendu, évidemment, et qui s'exprime souvent sur la page Facebook de l'émission. Merci à tous, en tout cas, de votre fidélité. Je vous souhaite de passer une excellente fin de semaine à l'écoute des RFI. Lundi, nous parlerons du Burkina Faso et des premières contestations sociales et économiques de la transition. 48 heures de grève générale ces derniers jours pour dénoncer les conditions de vie au quotidien. On en parlera, évidemment, ensemble. Lundi matin.
C'était Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie.